Radio Prague, les informations. Bonjour, le Premier ministre a critiqué le chef de l'État. Selon lui, il ne devrait pas apparaître lors des rassemblements d'une secte xénophobe. Le gouvernement a adopté le plan de développement de l'agriculture écologique. Et puis enfin, une délégation française sans Anne Hidalgo était présente à Prague ce vendredi pour présenter la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024. À la suite de plusieurs personnalités politiques et notamment des eurodéputés dans une lettre ouverte, c'est au tour du Premier ministre de critiquer sévèrement la participation du chef de l'État, Miloš Zeman, à un rassemblement organisé à Albertov à Prague par le mouvement du bloc contre l'islam lors des célébrations du 17 novembre. Dans un entretien publié dans l'édition de ce vendredi du quotidien Hospodarské noviny, Bohuslav Sobotka indique, je cite, que la plus haute autorité d'un pays qui a une profonde tradition humaniste et démocratique ne devrait pas participer au rassemblement d'une secte xénophobe, fin de citation. Le bloc contre l'islam, un groupuscule créé par le professeur de biologie Martin Konvitschka, joue sur les peurs des gens vis-à-vis de l'État islamique et de la crise migratoire, poursuit le Premier ministre. De son côté, le chef de l'État, coutumier des déclarations hostiles à l'islam, se défend d'avoir prononcé des propos islamophobes ou haineux durant le discours prononcé mardi dernier, 17 novembre. Le gouvernement a approuvé ce vendredi le plan de développement de l'agriculture écologique jusqu'en 2020. Ce document prévoit par exemple que la part des denrées bio sur l'ensemble de la consommation des aliments et boissons s'élève à 3%, c'est-à-dire un chiffre qui aurait déjà dû être atteint cette année selon le plan précédent adopté en 2010. Selon les dernières données disponibles, cette part s'élève actuellement à 0,7%. Les écologistes critiquent ce plan pour son manque d'ambition, notamment en ce qui concerne l'augmentation des surfaces agricoles cultivées selon le mode biologique. Économie, l'industrie automobile se porte toujours aussi bien en République tchèque. En effet, 1 100 000 véhicules particuliers sont sortis des usines des constructeurs installés dans le pays au cours des 10 premiers mois de cette année. Il s'agit d'une augmentation de 5% par rapport à 2014. Škoda a produit 57% de ce total devant Hyundai et le consortium Toyota Peugeot Citroën Automobile qui a lui enregistré la plus forte hausse en l'espace d'un an avec plus 15%. Les chiffres ont été communiqués ce vendredi par l'Association de l'industrie automobile. Rappelons qu'en 2014, la production de véhicules motorisés avait déjà augmenté de 10% en République tchèque pour s'élever à un total record de près de 1 250 000. Et puis, retour au président de la République, malgré les nombreuses critiques formulées à son encontre, notamment pour ses déclarations islamophobes, Miloš Zeman assistera ce vendredi soir à une messe célébrée en son intention par le cardinal et archevêque de Prague, Dominique Duka, et ce, à l'église de Lani. Lani, une commune de Bohême centrale où se trouve la résidence du chef de l'État. Outre le président, cette messe sera célébrée également à l'intention de la nation tchèque. L'office se tient suite à une initiative de l'Église catholique. À noter quand même que cette messe, à l'issue de laquelle Dominique Duka et Miloš Zeman dîneront ensemble, sera célébrée pour la santé du président et ce afin qu'il dirige le pays avec réflexion. On passe au sport alors que la première réunion de travail entre les responsables de la candidature parisienne aux Jeux Olympiques 2024 et le Comité international olympique s'est tenue à Lausanne en Suisse jeudi. Une délégation française poursuivait sa mission de présentation ce vendredi à Prague où se tient l'Assemblée générale des comités olympiques européens. Cette délégation est emmenée par Tony Estanguet, coprésident de la candidature parisienne, et par le directeur général de celle-ci, Étienne Taubois. Il s'agit là d'une étape importante dans le lobbying français. 4 des 5 candidates à l'organisation des JO 2024 étant des villes européennes. À noter que, contrairement à ce qui avait été annoncé, Anne Hidalgo ne participait pas à ce voyage. À Prague, la maire de Paris devait accomplir son premier déplacement à l'étranger pour promouvoir la candidature et confirmer notamment que, malgré les attentats de vendredi dernier, la capitale française restait candidate à l'organisation de l'événement. Finalement, Anne Hidalgo a préféré annuler ce déplacement à Prague pour rester à Paris. On termine avec un mot de météo. C'est un temps essentiellement couvert qui continue de régner sur l'ensemble du territoire tchèque ce samedi. Samedi qui est le jour de la fête des Albert. Les averses se transforment en chute de neige à partir de 500 mètres d'altitude. Quant aux températures, elles varient entre 3 et 6 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention et merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous les amis et bienvenue à l'écoute de la suite de cette émission de Radio Prague consacrée, comme vous le savez bien, à l'actualité tchèque. Merci pour commencer à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Ce vendredi, en plus d'un entretien absolument exclusif avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Tayeb Bakouche, en visite de 2 jours à Prague en ce moment, on parle des attentats parisiens et du possible rôle joué par la Tchéquie depuis quelques années en tant que pays de transit pour les terroristes. Dans la revue de presse hebdomadaire d'Alena Gebertova, on verra également comment les médias tchèques sont revenus sur ces tragiques événements. Bonne écoute à tous et à toutes. La République tchèque, pays sûr qui attire relativement peu l'attention, serait un des pays de transit utilisés par de potentiels terroristes pour rejoindre les États qu'ils ciblent, comme la France. C'est en tout cas ce qu'a déclaré jeudi Bohuslav Sobotka, qui précise se baser sur des indices identifiés par les services de renseignement. La Tchéquie, comme pays de transit pour de possibles terroristes, l'idée n'est pas nouvelle. Sans revenir à Carlos, ce terroriste revendiquant d'extrême gauche passé à plusieurs reprises par la Tchécoslovaquie communiste, dans un autre contexte donc, le nom de Mohamed Atta, impliqué dans les attentats du 11 septembre 2001, avait largement retenu l'attention des médias tchèques puisque l'Égyptien serait passé par Prague à 2 reprises, et notamment fin 2000 pour prendre l'avion à destination des États-Unis. À l'époque déjà, le choix de transiter via la capitale tchèque plutôt que par Hambourg ne serait pas dû au hasard, mais bien motivé par l'idée de ne pas être repéré. 3 jours après les attaques de Paris, survenues le 13 novembre dernier, le Premier ministre Bohuslav Sobotka annonçait qu'un des terroristes aurait traversé le territoire tchèque à 2 reprises, il y a 5 et 7 ans, sans qu'il soit précisé si ces voyages avaient un quelconque lien avec une entreprise terroriste ou djihadiste. Ce jeudi, le chef du gouvernement a affirmé que la République tchèque devait bel et bien être vue comme un pays de transit.
Les pays qui sont sûrs peuvent être considérés comme des pays de transit. Dans de tels pays où tout est calme, vous êtes moins visible que quand vous voyagez dans des pays en proie à des attaques terroristes. Évidemment, c'est pour nous un inconvénient, mais il faut également réaliser que cela est lié au fait que la République tchèque est un pays sûr.
Na jedné straně je to nevýhoda, na druhé straně je potřeba si uvědomit, že je to reakce na to, že Česká republika je bezpečný stát.
Porte-parole du service de renseignement et de sécurité, Jan Schubert s'est refusé à tout commentaire sur les propos du Premier ministre. Des sources judiciaires françaises, reprises par la presse hexagonale, vont cependant dans leur sens, puisque le djihadiste Reda Hameh, interpellé à l'été dernier à son retour de Syrie, avait indiqué aux enquêteurs qu'Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats parisiens, lui avait conseillé de rentrer en France en passant par Prague. Il s'agissait d'éviter d'être repéré, écrit le journal Le Monde. Politologue spécialiste des questions de sécurité, Oldřich Bureš, interrogé par la radio tchèque, indique que le rôle de certains pays d'Europe centrale et orientale est bien documenté.
La littérature académique, pour ce que j'en sais, met en garde depuis un certain temps sur le fait que l'Europe orientale, bien qu'elle ne soit pas forcément un centre de radicalisation ou la cible de potentielles attaques terroristes, est utilisée précisément car elle fait l'objet de moins d'attention pour d'autres tâches, y compris en tant que zone de transit vers des pays où les terroristes veulent commettre des attentats.
případně tranzitu do těch zemí, kde nějaké teroristické útoky chtějí páchat.
La République tchèque pourrait ainsi également être un pays de transit dans le cadre du trafic d'armes. En témoigne l'arrestation par la police de la région de Zlín, à l'est de la Moravie, de deux ressortissants français roulant dans une voiture transportant des armes, sans qu'un lien avec une organisation terroriste, évoquée par le site Lidovki.cz, ne soit établi. Ce qui est établi, en revanche, c'est que les armes automatiques utilisées lors des attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier provenaient de Slovaquie, un état où sont légalement vendues des armes désactivées destinées au tournage de films ou aux collectionneurs, mais qu'il serait possible de reconvertir en armes opérationnelles. Face à cette situation, les spécialistes des renseignements appellent à une coopération renforcée des différents services européens. Le commissaire européen chargé des affaires intérieures, Dimitri Avramopoulos, appelle d'ailleurs ce vendredi à la création d'une agence européenne du renseignement, proposition qui avait été refusée par différents États européens, dont la France, après les attentats de janvier. Par ailleurs, Bohuslav Sobotka a indiqué qu'il n'envisageait pas de fermer les frontières du pays, une mesure qui irait, je cite, « contre les intérêts de la République tchèque ». D'autant plus que si l'on en croit le ministre de l'Intérieur, Milan Chovanec, artisan d'une politique de fermeté à l'égard des migrants, la Tchéquie ne serait plus un état sûr pour d'éventuels djihadistes, le pays ayant, d'après lui, introduit de hauts standards de sécurité. Le chef de la diplomatie tunisienne, Tayeb Bakhouch, est dans la capitale tchèque en cette fin de semaine pour une visite de travail. Le ministre a accordé un entretien exclusif à notre journaliste Alexis Rosenzweig.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je pourrais commencer par vous demander quels sont les principaux objectifs de votre visite à Prague ?
Les principaux objectifs sont d'abord de continuer ce qui a déjà été fait avant, mais pour le développer et le renforcer davantage, puisqu'il était limité à quelques domaines, notamment économiques et commerciaux, mais nous voulons maintenant l'élargir à plusieurs domaines, dont le domaine sécuritaire, le domaine de l'armement, également le domaine culturel, touristique, hydraulique, agricole, donc élargir le champ de la coopération entre la Tunisie et la République tchèque.
Concrètement, quand vous parlez du domaine sécuritaire et de l'armement, qu'est-ce que cela signifie ?
Il va y avoir une visite dans les quelques jours ou quelques semaines à venir du vice-ministre de la Défense de la République tchèque en Tunisie, qui sera suivi par une visite du ministre de la Défense tunisien en République tchèque pour mettre en pratique les modalités de cette coopération dans le menu détail. Mais mon rôle, c'est de mettre ça dans son cadre politique général. Il peut y avoir, par exemple, de l'industrie d'armement en Tunisie avec le concours et la participation de la République tchèque, comme il peut y avoir d'autres formes de coopération commerciale aussi sur le plan sécuritaire. Les besoins de la Tunisie en matière de sécurité.
Et de quoi a besoin la Tunisie qui fait face à... qui vient de connaître une terrible année 2015, qui n'est pas encore terminée, qui vient de déjouer une tentative d'attentat de nouveau à Sousse. De quoi a besoin la Tunisie, que pourrait lui fournir Prague?
Je pense qu'il peut y avoir des moyens de contrôle plus sophistiqués de nos frontières pour empêcher justement le passage des armes et des terroristes. Nous allons discuter des modalités de cela. Peut-être aussi les besoins en munitions, soit sous forme de commercial, soit sous forme aussi d'industrie. Donc tout cela, c'est des modalités pratiques qui seront discutées entre experts selon les besoins. Mais mon rôle, c'est d'établir le cadre de cette coopération sur le plan politique.
La Tunisie a fait face non seulement à des attentats, mais aussi doit faire face à un afflux d'émigrés, de migrants venant de Libye notamment. Est-ce que vous comprenez les réticences des autorités tchèques à accueillir sur leur sol des réfugiés?
D'abord, nous le comprenons parfaitement. Ensuite, nous ne demandons pas à nos amis tchèques de recevoir des émigrés. Ce n'est pas du tout notre propos. Nous, c'est vrai qu'en Tunisie, de par la proximité de la Libye, nous avons accueilli dès les premiers jours de la révolution libyenne, ou ce qu'on appelle pratiquement une véritable guerre civile, pendant quelque temps en Libye, en 2011, nous avons accueilli plus d'un million de Libyens sur le sol tunisien, avec même un nombre important d'Africains qui étaient en Libye et qui sont passés en Tunisie. Mais là, c'est un autre problème. La situation en République tchèque n'a rien à voir avec la situation de la Tunisie à ce moment-là.
Est-ce que la réouverture d'une ligne directe Tunis-Prague est à l'ordre du jour?
Nous avons évoqué cela et je vais discuter de cette question avec mon homologue du transport. Effectivement, nous pensons que l'établissement de relations au niveau de l'aviation, au niveau du transport, peut contribuer au développement des relations commerciales et touristiques également. Je pense que cette visite est couronnée de succès et qu'elle est un prélude à un futur de coopération encourageant.
Merci. Je rappelle que vous êtes Taïb Bakouche, le ministre tunisien des Affaires étrangères. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci beaucoup. Bonne journée.
On passe à la rubrique du miroir de la société d'Alena Gebertova. Un seul sujet au menu de cette revue de presse hebdomadaire, les attentats de Paris du 13 novembre, événement qui a été traité sous tous ses aspects dans l'ensemble des médias tchèques et auquel les célébrations de la fête nationale du 17 novembre ont forcément fait écho.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
C'est quelques heures seulement après le massacre de Paris, dans une atmosphère fortement émotionnelle, que Jiří Sobota a rédigé un texte pour Respect, hebdomadaire qui sort le lundi et dans lequel il écrit.
Les Français ont affronté la première vague de l'horreur avec une grande dignité. Il faut souligner l'opération parfaitement coordonnée de la police et de l'armée, la communication exemplaire entre les représentants politiques ainsi que la solidarité des Parisiens. Il n'a fallu par exemple que quelques heures pour voir lancer sur Twitter le hashtag « porte ouverte », une façon pour les habitants du centre de proposer un hébergement aux personnes qui ne pouvaient rejoindre leur domicile.
Même s'il est trop tôt pour évaluer les conséquences de ces attaques, l'auteur du texte publié dans le magazine Respect estime, de concert avec d'autres éditorialistes tchèques, que celle-ci pourrait renforcer les populistes en France et dans l'ensemble de l'Europe. Toutefois, se laisser aller à l'abattement signifierait accomplir ce que souhaitent les terroristes. Selon lui, il est également certain que l'Europe ne peut plus vivre sa petite vie paisible, isolée du monde. Dans une analyse publiée quelques jours plus tard dans le quotidien Mladá Frontanes, Luboš Palata invite la société tchèque à ne pas céder à la haine à l'égard des musulmans suite à ces attaques terroristes.
Les gens quittent la Syrie ou l'Irak pour l'Europe, fuient le même danger, le même carnage qui a touché Paris dans la nuit de vendredi. Il fit une guerre sanglante et impitoyable dont l'organisation de l'État islamique est aujourd'hui l'acteur le plus brutal. Les réfugiés qui ne sont ni ses alliés ni ses sympathisants sont les victimes d'une guerre qui sévit au Proche-Orient et qui a tué des milliers de personnes ayant trouvé la mort dans des attentats en Irak, à Beyrouth ou ailleurs.
Luboš Palata souligne que même en ces moments difficiles, il ne faut pas oublier les fondements de nos valeurs européennes qui sont l'humanité et la compassion. Avant de conclure.
Nous sommes appelés à continuer à accorder notre aide aux migrants qui fuient la guerre en Syrie et en Irak. Les réfugiés ne sont pas nos ennemis, ce sont des gens qui ont été affectés par la même guerre qui nous touche maintenant à Paris. Nous constituons, pour l'organisation de l'État islamique, un ennemi commun. Voilà pourquoi il nous faut être des alliés pour l'éliminer de la surface du monde. Sinon, c'est lui qui prendra petit à petit le dessus sur nous.
Dans l'édition de ce mercredi du quotidien Le Nouveau Venez, Petr Didek tient pour sa part à rappeler que le monde dans lequel nous vivons reste relativement sûr. Il explique pourquoi.
L'émotion provoquée par les attaques terroristes barbares à Paris, considérablement alimentée par les médias qui déclinent à toutes les sauces le mot « guerre », ne devrait pas nous empêcher de garder un regard rationnel sur la situation actuelle. D'un point de vue historique, nous vivons dans un monde sûr, notamment comparé à l'époque avant 1989. Entre les années 1950 et 1980, une guerre nucléaire mondiale aurait pu à tout moment éclater. Ces conséquences auraient signifié un retour en arrière de la civilisation de plusieurs centaines d'années, sinon la destruction de l'humanité. Ce n'est que plus tard que les historiens ont dévoilé qu'à certains moments, une apocalypse nucléaire n'a été évitée que par un heureux jeu de circonstances. Les menaces sont donc alors incomparables.
L'économiste Tomáš Sedláček a réagi ce jeudi dans les pages du quotidien Economic Hospodářské Noviny au fait qu'une partie des assaillants du vendredi 13 novembre vient de Bruxelles, où y ont vécu.
Cette ville est le symbole de l'intégration européenne, le siège des institutions bureaucratiques et politiques de l'Union européenne. C'est aussi une ville d'espoir, de coopération et de culture européenne, une ville où la communication est cultivée et délicate. Il est étrange que cette ville se soit maintenant retrouvée à l'origine de la désintégration, de la terreur, de la haine, d'un manque de culture, de la barbarie et de la brutalité. Comment a-t-on pu concevoir l'intégration européenne sous ses aspects politiques, économiques et bureaucratiques, tout en négligeant l'intégration sociale et culturelle ?
Il faudra probablement voir mourir encore des centaines ou des milliers de personnes pour que les politiciens prennent leur menace de terrorisme enfin au sérieux. C'est ce que prétend, dans un entretien mis en ligne sur le site actuania.cz, au lendemain des attaques de Paris, Karel Randák, ancien chef du service de renseignement extérieur de la République tchèque, refusant l'hypothèse de l'échec des services de renseignement qui n'auraient pas voué une attention suffisante aux menaces de terrorisme, il déclare également
« Aucun État au monde, même s'il s'agit d'une dictature absolue, n'est capable d'édifier un système sécuritaire sûr à 100% qui serait à même d'empêcher de pareilles attaques terroristes. » Ce n'était pas possible dans l'ex-Union soviétique ou dans la République démocratique allemande, qui étaient des régimes totalitaires très durs. Pour que les services de renseignement puissent du moins minimaliser la menace d'attaque terroriste, ils doivent bénéficier d'un soutien de l'ensemble de la société, des compétences nécessaires, d'un budget satisfaisant, d'experts qualifiés et d'un équipement technique moderne. Mais force est de constater, aussi bizarre que cela puisse paraître, qu'ils ont également besoin d'un brin de chance.
Les journaux de cette fin de semaine se penchent pour la plupart sur la riposte entamée par la France et sur la perspective d'un futur engagement international. Voici un extrait de l'éditorial publié sous le titre « La coalition contre le mal » dans l'édition de ce jeudi du journal Mladá Frontalnes, déjà cité, et dans lequel Ladislav Krizanek écrit.
Avec le massacre survenu à Paris, l'organisation de l'État islamique a esquissé ses ambitions globales qui dépassent la région de l'Irak et de la Syrie. La riposte doit être aussi globale. Les forces de l'Occident se mobilisent pendant qu'une vaste coalition antiterroriste commence à se dessiner. L'Occident a maintenant compris que la menace des fanatiques islamistes était très grave et qu'il devait unir ses forces afin de mener une opération militaire déterminée. La question de savoir quelle sera la forme que prendra cette coalition demeure ouverte. Il va de soi que c'est à la France que revient la principale initiative dans ses efforts.
L'ensemble des journaux locaux ont observé que le contexte international a également marqué les célébrations qui ont eu lieu dans le pays à l'occasion de la fête nationale du 17 novembre, qui est inscrite dans le calendrier comme le jour de lutte pour la liberté et la démocratie. La présence du président de la République, Miloš Zeman, à une manifestation islamophobe qui s'est tenue dans la rue Albertov à Prague, l'endroit à partir duquel un rassemblement estudiantin avait donné le feu vert au renversement du régime communiste voici 26 ans, a notamment largement été commenté. Dans un texte mis en ligne sur le site ihnet.cz, Heinrich Schiller constate, pour sa part, que le 17 novembre a offert l'occasion au Premier ministre Bohuslav Sobotka de prononcer le meilleur discours de sa carrière politique.
Le 17 novembre, Sobotka a réussi à abandonner son rôle de simple chef de parti soumis au diktat des intentions de vote pour se présenter comme un homme politique européen responsable qui, tout en prenant compte de la dimension sécuritaire de la crise migratoire, ne prend pas une attitude naïve, apeurée ou populiste. Selon lui, en effet, la peur des terroristes ne doit pas se retourner contre les réfugiés.
Analysant les différents points du discours que le chef du gouvernement tchèque a prononcé à l'occasion des commémorations des victimes étudiantes des nazis en 1939, Heinrich Schiller cite un passage du discours qui est pour lui, vu l'ambiance du moment, particulièrement fort.
On ne doit pas se faire manipuler. Bien que les récentes attaques terroristes à Paris se soient déroulées au moment de la crise migratoire, il faut se rendre compte que les tueries ont été commises par des radicaux islamistes bien organisés. Notre colère doit donc se retourner contre ces derniers et non point contre les réfugiés, chassés de leur foyer par des violences religieuses ou ethniques, des violences dont sont responsables les mêmes assassins fanatiques.
Voilà, c'est avec la revue de presse d'Alena Gebertova que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site internet www.radio.cz/fr ou nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou bien sur Facebook. À très bientôt.